Merci Aziz. Il est 11h32 à Kinshasa et nous allons aborder la session des questions et des réponses avec une première question ici à Kinshasa. Sur ma droite, madame.
Bonjour, moi c'est Mireille Mpoui, ASM Online. Ma question s'adresse à Marshall. On reproche à la MONUSCO d'observer, de se contenter d'observer et de filmer des agressions de la population sans intervenir. Quelle est votre réaction par rapport à la résolution 2348?
J'imagine que vous faites allusion aux observations que nous avons menées dimanche dernier. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la MONUSCO a déployé des équipes sur le terrain, des équipes mixtes composées de personnel des différentes sections de la MONUSCO, des représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, des représentants de la police de la MONUSCO, des représentants de la force ainsi que d'autres sections. Tout ça dans l'objectif de contribuer à un climat apaisé qui, selon nous, est la condition pour pouvoir mener le pays vers les élections attendues à la fin de l'année. Ce que nous dit la résolution, c'est que nous devons observer et rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes sortis sur le terrain ce dimanche. Une fois encore, j'y ai fait allusion dans mes propos liminaires. Nous avons observé, mais nous avons aussi apporté une protection à des civils qui nous ont demandé assistance. Nous avons également apporté de l'assistance à des personnes blessées. Donc nous étions dans le cadre de notre mandat et aussi dans la limite de nos ressources et de nos moyens. Je vais prendre une deuxième question ici à Kinshasa. Sur la gauche, oui, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, c'est Kenny pour l'agence Reuters. J'ai une question qui me préoccupe beaucoup personnellement. C'est par rapport aux morts qui ont été enregistrés le 21. Et selon vous, la MONUSCO, vous parlez de 6 morts. Et tous les médias reprennent ce que vous dites. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez identifié les familles des victimes ou, si possible, si vous avez les photos de ces morts-là, si peut-être on peut les voir, question d'établir la vérité, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et même Human Rights Watch aussi semble emboîter votre pas, mais il parle de 8 morts. C'est bien, mais est-ce qu'on peut avoir des preuves de ces morts-là et que tout le monde est éclairé? Merci.
Dans la mesure où les bilans que j'ai annoncés au cours de ces derniers jours me sont fournis par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, je vais laisser la parole à Aziz afin qu'il vous réponde.
Ok. Merci beaucoup, Florence. Je voudrais souligner que je crois que nous avons, au cours de l'année 2017, parlé largement de la méthodologie que nous utilisons pour la confirmation des données que nous avançons. Je crois que, si vous avez bien remarqué, nous avons au moins ce principe. Nous appliquons, contrairement à beaucoup, un principe de précaution, parce que nous ne communiquons que sur les chiffres, les statistiques que nous avons pu confirmer, même si quelquefois nous avons des allégations qui sont largement supérieures. Cela dit, nous avons été sur le terrain le 21 janvier. Les équipes de la MONUSCO ont été déployées un peu partout. Les gens, pour beaucoup qui sont morts au vu et au su de tout le monde, dans les paroisses, au cours de manifestations. Donc, nous avons pu les identifier. Nous ne pouvons pas avancer des chiffres sans pouvoir réellement vous donner les lieux et les noms. Une conférence de presse et la presse, nous ne communiquons pas les détails en public. C'est une ligne de conduite que nous tenons de l'Office du Haut-Commissariat des droits de l'homme, qui nous interdit de donner des données confidentielles qui relèvent des victimes. Nous les partageons avec la justice. C'est ce que nous faisons depuis notre présence ici en RDC. Nous partageons les informations qui permettent à la justice de mener ses enquêtes et de pouvoir réellement poursuivre les auteurs. Le travail se fera avec l'auditorat militaire, comme cela a toujours été le cas, afin que les mesures appropriées soient apportées. Donc, juste, nous avons, pour rappeler, nous avons parlé de 6 morts, dont 2 femmes, tout à Kinshasa. Nous avions parlé de 68 blessés et de 121 personnes arrêtées, et parmi lesquelles au moins 90, à l'heure où je vous parle, ont été déjà libérées. Les libérations se poursuivent. Dans les heures qui suivent, peut-être qu'on va se retrouver avec 5 ou 6 personnes encore en détention, pour des raisons que la justice, enfin, les autorités policières pourraient avoir et avancer. Mais nous faisons notre travail, qui est de faire le monitoring, les reporting, l'investigation, mais également le plaidoyer. Nous engageons des discussions avec les autorités policières, qui, il faut aussi le souligner, sont assez réceptives du plaidoyer, et pour beaucoup, les personnes qui avaient été arrêtées ont été libérées. Il y a des allégations d'extorsion, il y a des allégations de mauvais traitement, mais cela relève dans tout autre niveau de vérification et d'enquête que nous allons mener, et les résultats seront apportés auprès des autorités compétentes afin que les réponses appropriées soient données.
Merci. Merci Aziz. Nous partons à Goma pour prendre une question.
Merci pour la parole. C'est Norbert Mwindula pour le compte de l'Emergence Plus. Oh, je parle de l'escorte de Kiwanja Kanyabayonga assurée par l'UCSN, où l'UCSN dépenserait 25 000 dollars le mois. Je voudrais savoir si la mission continue à appuyer ces escortes, et parce que l'UCSN dit être fatigué ou délassé par rapport à toutes ces dépenses qu'il est en train de fournir le mois. Je voudrais savoir si la mission continue à appuyer ces escortes, et si vous appuyez, c'est à quel pourcentage vous appuyez l'ICSN. Merci.
Merci pour votre question, mais je n'ai pas d'éléments de réponse à propos de ça. Donc, peut-être vendredi, lors de point de presse à Goma, je vais fournir les éléments de réponse à cette question-là. Merci.
On prend une deuxième question à Goma, s'il vous plaît.
Oui, mon nom c'est Frédéric, je travaille pour la rédaction de Radio Sauti Njili. Et ma question c'est que vous, la MONUSCO, vous avez la vocation de protéger les populations civiles, non seulement face aux groupes armés, mais aussi à toute force qui viole les droits de l'homme et qui veut tuer la population. Alors, je voudrais savoir quelle est la ligne rouge que le gouvernement doit dépasser pour que vous utilisez et tous les pouvoirs que vous a confié les conseils de sécurité pour protéger la population, justement.
Je le répète, nous sommes intervenus dimanche, nous avons déployé des équipes sur le terrain, justement en application de cette résolution qui actuellement guide nos activités, qui est celle de protéger les populations civiles, mais aussi de suivre la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, car j'ai l'impression que les deux sont liés. Quand il y a des marches pour justement demander la mise en œuvre de cet accord, nous intervenons donc selon les deux piliers de notre mandat. Nous faisons, nos activités sont guidées donc par cette résolution et également par les moyens et les ressources qui sont à notre disposition. Nous revenons ici à Kinshasa. Aziz a une petite précision à ajouter.
C'est une question récurrente, c'est une question qui revient à longueur de... Je pense qu'il est bon d'apporter des précisions à ce niveau-là. Le mandat, il est clair, le mandat est de protéger les civils. Il n'y a pas, en ce moment, nous ne pouvons pas dire, ou du moins nos analyses et notre observation ne nous permettent pas de dire qu'il y a une politique systématique qui consiste à véritablement tirer sur les civils. Ce que nous avons observé une diversité de comportements. À Kinshasa au moins, nous avons vu des endroits où la police a eu un comportement qui relève du bon sens, où certains manifestants ont été quelque peu encadrés. Il y a eu une forme de dissuasion de leur dire par le dialogue qu'il n'est pas possible de marcher pour des raisons X ou Y. Dans d'autres endroits, nous avons vu des militaires qui se sont même interposés entre la population et la police pour faire barrage des militaires de la FRDC. Dans d'autres zones-là, nous avons vu, nous-mêmes, de nos propres yeux, des policiers et des militaires discuter de quelle est la riposte et la réponse à apporter. Donc, il y a, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a une consigne générale qui est donnée de réprimer à tout va, c'est-à-dire de tirer sur tout ce qui bouge. On n'en est pas encore là. Donc, ce que vous voulez qu'on vous dise, si la MONUSCO va utiliser la force contre les forces de défense et de sécurité, nous n'en sommes pas là. Et ce n'est pas ça le débat pour le moment. Nous sommes engagés davantage dans une logique de promouvoir le dialogue. Il faut prévenir la survenance des violences. C'est ça le plus important. Et nous y travaillons. C'est d'engager avec les acteurs, à la fois société civile et les autorités qui habilitent et donnent habilitent les personnes à manifester pour réellement avoir une compréhension commune des dispositions et de la démarche à suivre. Ça, c'est notre rôle. Nous appelons à la paix, nous appelons au calme, nous appelons réellement au respect des lois et règlements, nous appelons également au respect de la Constitution. C'est une position. Nous sommes les Nations Unies, nous ne pouvons pas avoir une autre position. Je crois que ça doit être très, très clairement dit et c'est extrêmement important. Tous les manquements de part et d'autre seront observés et rapportés. De la même façon que nous disons que la police a eu à certaines occasions un comportement qui n'était pas le comportement attendu, de la même façon nous devons aussi souligner que, par exemple, dans la zone de Mili, il y a des jeunes qui se sont attaqués en commissariat et qui ont blessé des policiers. C'est la violence d'où qu'elle vienne doit être condamné. Et c'est clairement ce que nous avons dit dans nos communiqués de presse et que nous continuons à marteler et à dire de façon très, très claire.
Merci Aziz pour cette clarification. Oui, monsieur. C'était le voisin, mais bon.
Oui, d'accord. Merci Florence Nikezu Mouzani, africeco.ch. Ma question est la suivante, mais elle ressemble plus à un arbre qui a deux branches. Vous allez vous partager quelque part réponse. Madame Florence, la Charte des Nations Unies n'a jamais été muette, nous la connaissons très bien. À la lecture de ce qui se passe à RDC, voir un régime qui laisse toujours l'armée et la police affronter une population non armée, et pourtant c'est elle qui est censée la protéger. Que dit exactement la Charte de l'ONU?
Donc, c'est la feuille de route qui nous a été donnée, c'est celle pour laquelle nous œuvrons et c'est celle que nous partageons avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Aziz va faire un petit commentaire supplémentaire.
Dans la même ligne que ce que j'ai dit précédemment, je rappelle encore une fois que ce que nous disons au gouvernement, nous ne pouvons pas, vous pouvez le comprendre facilement, nous ne pouvons pas revenir dehors et le dire publiquement. Nous avons, je pense, de façon très claire, des avenues et des espaces de discussion directe avec le gouvernement où nous posons les vrais problèmes. C'est parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a des difficultés dans la mise en œuvre de certains aspects du mandat. Il y a des comportements qui ne sont pas les comportements attendus de certaines composantes des forces de défense et de sécurité. Et je le rappelle encore une fois, il s'agit de quelquefois de comportements isolés ou des comportements à décrier de la part de certaines unités. Et ces aspects-là, nous les engageons. Nous avons des canevas de discussion, nous avons des canevas d'interaction et nous avons des mécanismes d'établissement de rapports pour une responsabilisation pour la prise de décision, que ce soit disciplinaire, administrative ou, comme je l'ai dit, des décisions judiciaires. Je voudrais rappeler qu'il nous faut avoir une lecture globale. Il y a des résolutions et des déclarations qui ont été faites par le Conseil de sécurité. Et le Congo est membre des Nations Unies et les décisions et les déclarations qui sont faites par le Conseil de sécurité engagent le pays. Le Conseil de sécurité a été très clair en disant effectivement que tous les acteurs qui peuvent être identifiés comme posant des entraves au déroulement, à la mise en œuvre du calendrier électoral, d'une part, mais également à l'ouverture, à la mise en œuvre des mesures de d'anticipation, ces acteurs-là peuvent faire face à des sanctions. Donc, c'est un processus dynamique. C'est pas, l'appréciation ne se passe pas juste à l'aune de ce qui s'est passé le 21 ou le 31. Donc, d'une façon dynamique, il y a des actions qui sont en cours, il y a des discussions qui sont en train de se faire avec les autorités pour que les réponses appropriées soient apportées. S'il y a un constat d'impunité, ça évidemment il faudra aller à un autre niveau, mais pour l'heure nous en sommes à ce niveau-là.
Nous repartons à Goma pour une question.
Je m'appelle Alain Lamé, je suis journaliste indépendant. Pendant que l'opinion se concentre sur le processus électoral, il y a la recrudescence de groupes armés et les cultivateurs qui sont dans des coins greniers des villes fuient et il y a famine. Par exemple, au Kasaï, beaucoup des saisons culturelles ont été ratées. Et dans le Nord Kivu, que font les humanitaires pour qu'il y ait à manger, donc en termes de distribution de vivres, ou alors qu'il y ait une politique de relance de production agricole?
Alors, il n'y a pas de représentant de humanitaire ici, mais je peux vous rappeler que la semaine dernière, il y a eu le lancement du plan actualisé, du plan humanitaire actualisé par le coordonnateur humanitaire, Madame Bolduc, avec des besoins énormes concernant la RDC. Donc il y a un appel qui est lancé à la communauté internationale pour venir, pour porter assistance à la RDC. Des besoins qui n'ont jamais été aussi élevés. Le nombre de personnes à qui il est important d'apporter de l'assistance est environ 13 millions de personnes. Nos collègues du PAM, de l'UNICEF et de la FAO ont lancé également un appel en alertant qu'il y avait de l'insécurité alimentaire au niveau le plus élevé dans certaines provinces du pays, notamment dans le Kasaï, car trois récoltes n'ont pas pu avoir lieu. Donc nous sommes dans une phase de plaidoyer auprès de la communauté internationale afin de pouvoir avoir de l'argent pour porter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. Nous revenons ici à Kinshasa avec une question. Oui, madame.
RTNC2 Développement, Laetitia Massila. Je pose ma question à Potopoto. Quel est le planning que vous avez élaboré pour intervenir efficacement en ces moments où plusieurs épidémies frappent la République démocratique du Congo, telles que le choléra, la fièvre jaune et la malnutrition chronique? Merci.
Je comprends que c'est une question qui est adressée aux collègues soit de l'OMS ou de l'OTIA, parce que l'UNESCO ne s'occupe pas de problèmes de santé. Pour l'équipe pays, effectivement, je crois que je n'ai pas une réponse pour l'instant. Je crois que je vais faire part à nos collègues de l'OMS et de l'OTIA qui pourront revenir sur votre question à la prochaine conférence de presse. Merci.
Ok, on continue. Une question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Merci, c'est venant vous dire ça pour la RTNC. Je m'adresse au bureau conjoint des Nations Unies en matière des droits de l'homme. Tendance partagée avec les autorités congolaises, vous l'avez dit. Deux morts pour l'officiel, six morts pour vous autres, quand cela ne tient. Vous étiez chez le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, vice-premier ministre et ministre en charge des affaires étrangères au Mali. De quoi était-il question qui peut concerner le public congolais? Merci.
Pour ne pas vous donner l'impression d'appliquer la langue de bois, je vous dirai simplement que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la visite, comme vous l'avez vous-même, parce que vous faites partie des privilégiés et vous avez accès à certains endroits où d'autres n'ont pas accès, nous étions la démarche d'hier consistait à rencontrer le gouvernement dans le cadre de nos séances de discussion. À chaque fois qu'il y a des situations qui méritent d'être discutées et portées à l'attention des autorités, nous le faisons. Et la rencontre d'hier s'inscrivait dans ce cadre-là. Et d'autres rencontres sont à venir. Nous sommes en train d'y travailler. pour discuter de points d'intérêt commun qui concernent la situation du pays et qui nécessitent, nous en tant que Nations Unies et partenaires du gouvernement, de nous asseoir ensemble pour discuter. Pour juste vous dire ce qui me concerne, moi, en tant que chef du bureau de droits de l'homme, la question effectivement des brutalités policières contre mes équipes, c'est une question qui, de mon point de vue, est extrêmement importante et mérite aussi d'être portée à l'attention des autorités. Ce n'était pas l'objet de la visite, mais entre autres, c'est une question qui fera l'objet de discussion. Parce que, voilà.
On reprend une question ici à Kinshasa. Oui. À qui tu veux. Voilà.
Merci, c'est Saint-Germain des Prés, pour le camp des jours police.
Un petit peu plus fort, s'il vous plaît, pour que vous entendre ici,
camp des jours police, les immobilisés bénéficiaires du projet agro-pastoral pour la paix des Kala, en vue de la réduction des violences communautaires en Vira, réclament qu'il soit revu à la hausse le financement de la MONUSCO. Ils réclament qu'ils ont encore quelques hectares qu'ils doivent cultiver, qui demandent un nouveau financement. Qu'est-ce que vous leur promettez?
Alors, il s'agit d'une question très précise qui ne relève pas forcément de cette conférence de presse. Donc, nous allons nous renseigner et reviendrons vers vous. Je prends une question ici sur la droite. Il nous reste peu de temps.
Merci, Florence. Moi, c'est Flavien Sens pour les comptes de Planète Télévision. Je reviens pour les problèmes du marché du 21 janvier. Les organisateurs, y compris la société civile et les opposants, cette marche a trois objectifs poursuivis. Premier objectif, c'est l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Deuxième objectif, l'organisation des élections. Et troisième objectif, que le président se prononce s'il briguera encore le troisième mandat. Est-ce que la MONUSCO a déjà discuté avec le chef de l'État sur cette point? Seulement le troisième point. Est-ce qu'il va encore? C'est ça l'objectif de cette marche. Merci.
Alors, comme vous le savez, nous soutenons la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Nous soutenons la mise en œuvre des principes de cet accord. Et si nous lisons bien cet accord, il n'est pas prévu de troisième mandat dans l'accord. Il n'est pas prévu de transition sans le président actuel. Il n'est pas prévu de référendum. Mais il est prévu, en revanche, la mise en œuvre de mesures de décrispation, l'ouverture de l'espace démocratique, le respect des droits de l'homme, la libération de prisonniers politiques et, bien sûr, la conduite vers les élections qui ont été annoncées par la Commission électorale nationale indépendante selon le calendrier de début novembre pour la fin de l'année. Donc il est important maintenant que toutes les parties prenantes se mobilisent afin de pouvoir respecter ce calendrier. Beaucoup de temps a déjà été perdu, donc il est temps que tout le monde soit mobilisé. La MONUSCO rappelle qu'elle est prête à apporter son assistance pour l'organisation de ces élections. Il est important que les Congolaises et les Congolais puissent, dans un temps prochain, choisir les personnes et les institutions qui les représenteront. Mais il est également important que, dans cette période, toutes les voix puissent s'exprimer dans le cadre d'un débat démocratique. Voilà la lecture que nous avons de l'accord du 31 décembre et nous faisons tout pour faciliter sa mise en œuvre. Le secrétaire général l'a rappelé dans son communiqué diffusé lundi. Il reste pour nous la seule voie viable qui permettra d'apporter la stabilité à la République démocratique du Congo. Voilà, cette conférence de presse est terminée. Je vous remercie et à la semaine prochaine.